Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Chindali Kambala.
Ituri, le général Gabi Kasongo Mulumba promet paix et vigilance face à Ebola. À son arrivée à Bunia, le nouveau gouverneur militaire appelle à travailler main dans la main avec la population pour le retour de la paix et la prise de conscience de l'épidémie. Maluku, détresse des déplacés de Pakajuma, près de 60 morts, plus de 20 000 personnes vivent dans une grande promiscuité, sans abri décent ni assistance, et lance un appel urgent à l'État congolais. Est de la RDC, le député national Karlin Zazu Kasivita plaide pour des unités de défense locale face aux attaques persistantes des ADF. L'ancien gouverneur du Nord Kivu, qui est l'invité de ce journal, appelle à renforcer la sécurité et propose la création des brigades encadrées par les FARDC. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal parlé du matin sur la radio de la paix. Il a enfin foulé le sol de l'Ituri. Il s'agit du tout nouveau gouverneur de cette province. À peine descendu d'avion, le général Gabi Kasongo Mulumba a déclaré, je cite, « Je suis venu travailler avec la population itourienne, main dans la main, pour le retour de la paix ». Ce sont là les premiers mots du tout nouveau gouverneur militaire à son arrivée dimanche soir à Bunia, chef-lieu de la province. Par ailleurs, il appelle la population à prendre conscience de l'existence de l'épidémie d'Ebola. Marcel Kizabia Mungu pour les détails.
Les nouveaux gouverneurs de l'Ituri restent confiants pour les retours d'une paix durable dans la province. Pour le général Gabi Mulumba Kasongo, cela est possible avec la collaboration entre la population et les autorités. Il ajoute, je cite, « Nous allons travailler ensemble avec la population pour que cette province recouvre la paix. » En rapport avec l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus d'une centaine de morts dans la province de l'Ituri, le général Mulumba invite la population à prendre conscience de l'existence de cette maladie. Il sollicite l'appui des médias pour renforcer la sensibilisation des communautés au respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation des virus de cette 17e épidémie qui touche une partie de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC.
Les journalistes que l'on puisse ensemble être les bons communicateurs pour dire à la population que la maladie existe.
Selon des sources officielles, la cérémonie des prises des fonctions du nouveau gouverneur militaire de l'Ituri pourrait intervenir ce lundi 15 juin. Le général Gabi Mulumba Kasongo remplace le général Johnny Luboya Kachama qui a passé 5 ans à la tête de cette province sous état de siège. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Près de 60 morts, c'est le bilan annoncé par les déplacés du quartier Pakajuma, relocalisés à Maluku. À la base, une vie d'extrême détresse depuis leur relogement en février dernier. Sur place, des installations sanitaires construites à la hâte, des draps en guise de toiture. Plus de 20 000 personnes contraintes de vivre dans une grande promiscuité, exposées à plusieurs maladies. Face à ce tableau sombre, ces déplacés lancent un appel de détresse à l'État congolais pour une assistance humanitaire urgente. Constat avec Askin Zigba Tayoro, qui est allé à la rencontre de ses familles, suivez son reportage.
Sur leur site, abri de fortune, insécurité et décès sont devenus le quotidien de ces déplacés de Pakajuma. Aux alentours de l'hôpital général de référence de Kiko, le CNPP, de bâches effilochées et des draps tendus à la hâte servent de refuge. Des toilettes remplies dégagent des odeurs nauséabondes pour la santé publique. Entassés sous des bâches, ces déplacés de Pakajuma disent vivre comme des sous-hommes et ne savent pas à quel sein se vouer. Mama Belinda Palangi témoigne.
On ne prend pas soin de nous depuis qu'on est logé ici. Nous faisons face à des maladies. Nous avons faim. Nous sommes fatigués. Nous souffrons beaucoup ici. Nous sommes dans notre propre pays, mais nous manquons la paix. Les gens meurent ici chaque jour.
En ce jour, ces déplacés internes disent totaliser 4 mois dans un site saturé où d'autres familles dorment même à la belle étoile sans aucune assistance. il leur faut une solution digne, comme l'a dit Albert Tchikuna.
Nous demandons à ce qu'on nous fasse sortir d'ici. Si on nous donne l'argent, chacun pourra chercher sa parcelle pour y vivre dignement.
Selon le témoignage sur place, plusieurs déplacés qui ne peuvent plus tenir leur vie dans ces sites ont préféré regagner purement et simplement leur quartier Pakajuma.
Nous restons dans le domaine de la santé. Le Monde a célébré hier dimanche 14 juin la journée du donneur de sang. Mais au Maniema, aucune poche de sang n'était disponible. Le centre de transfusion sanguine de cette province fait face à une rupture des intrants. Conséquence, les hôpitaux généraux et centres de santé qui s'y approvisionnent sont eux aussi en manque. Selon le docteur Jean Bourédi, coordonnateur de l'établissement, les effets sont incalculables dans la communauté où certaines structures non habilitées se voient contraintes de pratiquer des transfusions. Un appel est lancé aux autorités compétentes pour approvisionner les centres en vue de sauver des vies humaines alors qu'il n'existe pas encore des substituts de sang. Florence Kizalunga pour le reportage.
Docteur Jean Bourédi fait savoir que cette rupture s'observe depuis le mois de février, alors qu'une rupture de 8 jours n'est pas tolérable dans un centre de transfusion sanguine.
En tout cas, nous manquons à l'heure actuelle des poches de sang là-bas. C'est là la grande difficulté que nous avons. C'est lié à la rupture des intrants qui nous permettent de qualifier les sangs, c'est-à-dire les réactifs, ainsi que les poches, les sachets citrates dans lesquels nous conservons les sangs. La deuxième difficulté, elle est liée aussi au manque de frais pour la mobilisation des associations de donneurs bénévoles de sang.
Suite à cette situation, voici comment procède le centre hospitalier Afianjima devant un cas qui nécessite la transfusion. Docteur Constantin Mwemedi.
Comme notre centre de transfusion sanguine n'a pas le sang, permettez-moi de vous le dire, si nous recevons un cas qui nécessite la transfusion, nous demandons à la famille de nous chercher un donneur. Après examen de labo, nous transfusons pour sauver la vie de notre malade. Mais en principe, ça ne devait pas être ainsi.
Signalons que le centre provincial de transfusion sanguine dessert 4 structures sanitaires de la place Kindu. Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous allons à présent à Matadi pour parler du cas de malades drépanocytaires. Ces patients, souvent confrontés à des crises sévères, recourent régulièrement à la transfusion sanguine. Vous comprenez donc que la journée du donneur de sang revêt une importance particulière pour eux. Chaque poche de sang représente bien plus qu'un simple don. C'est un espoir de survie, une chance de surmonter une nouvelle crise et de continuer à vivre. Détail avec Élise Kavira.
Surnommée la maladie de la douleur en raison des crises aiguës qu'elle provoque, la drépanocytose, également appelée anémie SS, peut devenir handicapante au quotidien. Selon les malades interrogés, certaines crises sont d'une intensité telle que seule une transfusion sanguine permet d'apporter un véritable soulagement et d'éviter des complications graves. Un témoignage partagé ici par Aude Mbala, jeune médecin, lui-même concerné aussi par cette maladie.
Je peux dire de 2009 à 2022. Chaque année, on me transfusait parfois une fois, parfois deux fois par an. Alors, à eux qui ont cette grâce-là de pouvoir donner du sang, je leur dirais de continuer en tout cas, parce que le sang sauve beaucoup de personnes dans le monde. Ça intervient dans plusieurs complications.
Pour le docteur Debs Nzoaoubamona, coordonnateur provincial du Centre provincial de transfusion sanguine, cette journée rappelle que le don du sang est un acte citoyen qui nous concerne tous.
C'est l'occasion de dire à tous les donneurs bénévoles de sang de faire des dons de façon régulière. Tous les groupes sanguins peuvent donner du sang. Il n'y a pas d'exception.
Le docteur Debs Nzoaou invite la population de Matadi à participer massivement à la campagne de collecte de sang qui se tiendra le mercredi 17 juin au Centre provincial de transfusion sanguine à Matadi. Depuis Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Politique à présent, clôture ce lundi de la session ordinaire au Parlement congolais. Mais avant sa fermeture prévue dans quelques heures, plusieurs dossiers continuent d'alimenter les débats. Parmi eux, l'examen de la très controversée proposition de loi sur les référendums, les préoccupations sécuritaires dans l'est du pays, ainsi que l'analyse de plusieurs accords de financement conclus avec des partenaires internationaux. La possibilité d'une session extraordinaire est déjà évoquée, alors que députés et sénateurs doivent se prononcer sur des questions aux implications politiques, sécuritaires et économiques majeures. Les détails avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
C'est une fin de session particulièrement tendue et chargée au Parlement. Conformément à la Constitution, la session ordinaire de mars doit se clôturer ce lundi 15 juin. Mais plusieurs dossiers sensibles restent sur la table. Au premier rang figure la proposition de loi sur l'organisation du référendum adoptée par l'Assemblée nationale et actuellement examinée au Sénat. Présentée comme un texte destiné à combler un vide juridique, la proposition continue de diviser la classe politique. Le débat a largement dépassé le cadre parlementaire. Ces derniers jours, des manifestations ont eu lieu à Kinshasa pour soutenir ou rejeter cette proposition de loi, tandis que plusieurs organisations de la société civile et des personnalités politiques appellent le Sénat à examiner le texte avec prudence. Autre sujet de préoccupation, la situation sécuritaire dans l'est du pays. Des députés du Nord Kivu et de l'Ituri ont suspendu leur participation aux travaux parlementaires pour réclamer un débat approfondi sur l'état des sièges en vigueur dans leur province depuis plus de 5 ans. Parallèlement, les deux chambres poursuivent l'examen de plusieurs textes économiques, notamment des accords de financement de plus de 700 millions de dollars destinés à soutenir différents projets de développement. À quelques heures de la clôture de la session, l'issue de certains de ces dossiers pourrait déterminer la nécessité ou non de convoquer une session extraordinaire dans les prochaines semaines.
Toujours au sujet du débat sur les changements ou la révision de la constitution en RDC, les autorités traditionnelles entrent dans la danse. Elles proposent la tenue d'un arbre à palabre afin de favoriser un large consensus autour de cette question jugée fondamentale. Dans une déclaration faite hier dimanche à Kinshasa, ces chefs coutumiers lancent également un appel à la cohésion nationale dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment la guerre d'agression rwandaise et d'autres crises internes. Écoutons l'un d'eux, le chef coutumier Kitengeshi, au micro de Blaise Dongala Mayanda.
Marquons notre soutien traditionnel à la nécessité d'adapter notre loi fondamentale aux réalités de nos us et coutumes et aux aspirations profondes de notre peuple. Toutefois, nous tenons à souligner que cette démarche d'une importance capitale pour l'avenir de la nation ne saurait être précipitée ni imposée. Nous souhaitons vivement que ce processus soit déclenché par l'arbre à palabre, comme l'exige notre tradition et nos us et coutumes, pour doter notre pays d'une nouvelle constitution qui reflétera véritablement la volonté souveraine du peuple congolais dans toute sa diversité. Cette initiative divise profondément les Congolais à un moment critique où notre pays est injustement attaqué par des forces négatives soutenues par le Rwanda et son armée. A plus que jamais besoin de son unité sacrée. Cette initiative parlementaire n'est pas irrigante car même adoptée et promulguée, il est difficile d'envisager un référendum sans nos compatriotes de province Nord Kivu et Sud Kivu.
Ce chef coutumier affirme agir conformément à la Constitution qui, en son article 207 alinéa 1er, stipule que l'autorité coutumière a le devoir de veiller à la préservation du tissu social du pays. À Kinshasa, la démolition d'un immeuble inachevé de 9 étages à la Gombe suscite de nombreuses interrogations. Un simple passage de bulldozer a suffi pour le faire s'écrouler, à la surprise même du conducteur. Situé en face de l'Université des sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC, l'édifice n'a heureusement pas fait de victimes. Mais cet effondrement relance les débats sur la qualité des constructions et le respect des normes urbanistiques dans la capitale. Pour comprendre les causes possibles d'une telle fragilité, Radio Kapi a recueilli l'analyse de l'architecte Jonathan Akilimali au micro de la Chembalo.
Quand j'ai vu la vidéo, je crois forcément qu'on peut conclure que c'est soit un problème de structure, l'ossature n'était pas assez forte, assez résistante, soit au niveau déjà de la fondation, l'immeuble ne tenait pas parce que un immeuble de 9 niveaux tombé en un coup, en tout cas, ce n'est pas vraiment un cas isolé. Ce sont des cas qui sont très répétitifs. Parmi des causes qui font en sorte que nous puissions trouver ces cas, est que tout le monde se donne le autorisation de construire une maison bien un bâtiment. Quand déjà ma maison n'est pas bien construite et que chez moi il y a des inondations, la même inondation qui est chez moi peut atteindre aussi les voisins. Surtout quand les eaux de drainage ne sont pas bien canalisées. La première chose en tout cas qu'on vise pour que la maison soit bien construite, c'est vraiment la fondation. Avant de faire une fondation, il faut d'abord faire une bonne étude du sol, savoir sur quel sol je suis en train de construire ma maison. Est-ce que le sol c'est dans une une zone marécageuse, est-ce que c'est un sol argileux, tout ça là, ça compte. Ta fondation doit être proportionnelle à la grandeur de ta maison.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, le premier ministre pakistanais a annoncé dimanche 14 juin dans la soirée que les États-Unis et l'Iran sont parvenus à trouver un accord de paix. La cérémonie officielle de signature de cet accord se tiendra le vendredi 19 juin en Suisse. Dans la foulée, Donald Trump a annoncé la réouverture du détroit d'Hormuz prévu après la signature de l'accord ainsi que la levée du blocus naval américain.
L'invité.
Les attaques des rebelles ADF continuent de faire des victimes dans l'est de la RDC. Face à cette menace persistante, le député national Karl Nzazu-Kasivita plaide pour un renforcement des dispositifs de sécurité afin de freiner l'expansion de ces groupes armés. Karl Nzazu-Kasivita, député national, est l'invité de ce journal et il s'entretient avec Grace Hamzati.
Karl Nzazu, bonjour.
Bonjour.
Dans votre plaidoyer, vous proposez la création de structures locales défense ou une police de proximité. Qu'est-ce qu'on peut retenir des locales défense et comment ces mécanismes fonctionneraient-ils sans se substituer au FRDC?
Je voudrais d'abord saluer la radio Capi qui nous a toujours donné l'occasion de parler avec nos compatriotes. En fait, il faut revenir sur le contexte. J'ai adressé une lettre ouverte au président de la République où j'ai proposé des options. Je ne vois pas seulement la question des locaux défense. J'ai demandé à ce que nos FRDC, notre système de défense et de sécurité, puisse évidemment aujourd'hui, au regard de la persistance du terrorisme ADF à l'est de la République démocratique du Congo, que nos FRDC puissent adapter leur stratégie militaire à la symétrie, parce qu'en fait, les ADF ne font pas la guerre conventionnelle. C'est la raison pour laquelle ils créent de la terreur, ils s'attaquent à la population civile sans défense, ils endeuillent nos populations. Aujourd'hui, en regardant le périmètre que les ADF ont déjà occupé, c'est quand même inquiétant. Il y a 10 ans, ces ADF étaient dans 2 groupements du territoire de Béni. Aujourd'hui, ils opèrent dans 6 territoires, dans 4 provinces, en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, il faut que le système s'adapte, un renseignement de proximité, mais au-delà de ça, il faut évidemment faire participer la population à la sécurité. Il faut créer les locaux défense qui vont renforcer les efforts des FRDC parce qu'ici, il ne s'agit pas effectivement de chercher à substituer l'armée. C'est plutôt, on veut renforcer les efforts de nos services de sécurité, de la défense, qui sont sur les grands objectifs, qui tapent sur les ADF, mais que ces derniers, malheureusement, à cause de leur mode opératoire asymétrique, ils viennent tiller souvent les populations dans des villages isolés. C'est la raison pour laquelle je pensais qu'il serait efficace aujourd'hui d'appuyer les efforts de nos FRDC par un système de local defense qui va être créé par l'État, parce que nous devons éviter l'improglio qu'on voit dans les groupes armés aujourd'hui. Ouazalendou, il y en a ceux qui sont vrais, qui militent pour les objectifs nobles et qui accompagnent les FARDC, mais il y en a aussi aujourd'hui dans plusieurs provinces, que ce soit au nord, que ce soit au sud, qui handicapent l'action de nos FARDC.
Justement, parlant de Ouazalendou, en quoi ce que vous proposez sera-t-il différent de ces groupes Ouazalendou?
D'abord, pour les locaux défense, il faut élaborer des critériums de moralité. Évidemment, il faut être engagé pour aider la RDC à restaurer sa sécurité. Mais c'est des jeunes qui vont être recrutés in situ, dans le milieu où ils se posent des problèmes, être formés par les FARDC pour accompagner les efforts de la sécurisation du pays. On voit des groupes de Ouazalendou qui se constituent partout dans les villages, mais qui sont parfois en contradiction avec la ligne défensive des FARDC. On a vu ça à Goma, on a vu ça à Bukavu. Pendant que les troupes des FARDC communiquent une chose, les Ouazalendou communiquent autre chose. Et c'est ces désordres-là que nous ne voudrions pas que ça se répercute sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi j'anticipe, j'alerte pour qu'effectivement la République démocratique du Congo, au-delà des efforts fournis par les forces de défense et de sécurité, qu'il y ait cet accompagnement communautaire dans le cadre de la sécurité participative pour ainsi mettre fin au cycle de violence de ces troupes terroristes qui ont beaucoup endeuillé la République démocratique du Congo.
Pourquoi ne pas sensibiliser ou mobiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée que de chercher à créer d'autres structures pour appuyer les FARDC.
J'ai proposé le réajustement de notre système de défense, ça veut dire il faut des formations. En même temps que nous souhaiterions qu'il y ait des locaux du FENS, mais nous avons suggéré que l'armée puisse restructurer ce système de défense, ce qui veut dire qu'il faut mobiliser les jeunes, qu'il faut recruter de nouveaux jeunes qui vont être formés à la guerre asymétrique pour nous permettre effectivement de contenir les assauts des ADF, mais aussi permettre qu'il y ait une sécurité de proximité et un renseignement de proximité. C'est des structures qui vont travailler en coordination avec l'armée parce que ces structures seront non seulement encadrées par l'État congolais, mais commandées par les structures des FARDC.
Carline Zanzou, merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'était notre invité, le député national Carline Zanzou, qui s'entretenait avec Grace Amzati. Voilà qui met fin à ce journal coordonné et supervisé par Lievin Mbouingavoubou et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.